Programme FM partage la différence.
Avec Olivier Serac.
Bonjour tout le monde. Face aux violences subies par des élus en France, l'association des maires ruraux qui se réunissait la semaine dernière en Corrèze pour son assemblée générale a signé une motion de soutien total et entier à tous les élus agressés. Pour Philippe Brugère, maire de Meymac et aussi président de l'association des maires ruraux de la Corrèze, cette violence est aussi visible dans notre département. Cela ne s'arrête pas aux invectives, assure l'élu. Élu qui souligne aussi avoir lui-même reçu des menaces de mort. Des élus du département de la Corrèze qui se sont prononcés contre le projet d'ouverture à la concurrence des TER en Nouvelle-Aquitaine. Une motion en ce sens a été votée à l'unanimité par le conseil départemental. Et cette opposition se note aussi dans la population puisque dans notre département, plus de 5000 personnes ont aussi signé la pétition contre cette ouverture à la concurrence. Un comité social et économique CSE des TER en Nouvelle-Aquitaine doit se tenir cette semaine à Brive. Quel visage aura le futur musée de l'homme de Néandertal à la Chapelle aux Saints ? Réponse en filigrane demain à partir de 18h à l'actuel musée. Le projet architectural mais aussi muséographique sera présenté à la salle culture et loisirs. Dans cette petite commune de la Chapelle aux Saints, en 1908, les frères Buissonni ont découvert le squelette presque complet de cet homme de Néandertal. Un homme qui a vécu il y a plus de 30 000 ans. Si les travaux du nouveau musée ont débuté en début d'année, l'ouverture même de ce musée pourrait se faire au début de l'été 2024. Le festival itinérant Coquelicante entre Creuse et Corrèze se poursuit cette année. C'est déjà d'ailleurs la 26e édition de ce rendez-vous culturel. Et demain, à Égletons, au Lonzac, mais aussi à Saint-Martin-Sepère, les amoureux d'histoire ont rendez-vous pour une soirée contée particulière. Tout le programme est à retrouver en détail sur le site de la Bibliothèque départementale de la Corrèze, bd.corrèze.fr. C'est la fin de ce flash. Passez une très bonne journée sur nos ondes.
Bientôt plus d'infos d'ici avec Olivier Serac.
Vous écoutez Bram FM à Népoul.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Il est 13h passé de 3 minutes et nous sommes le mardi 23 mai 2023. Jardin, champignons et canoë-kayak au menu de cette émission. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio une grande chroniqueuse que nous n'avions pas eue au micro depuis longtemps et qui revient avec une interview haute en couleur. Gilles Clément sur Bram FM grâce à toi. Audrey, bonjour.
Bonjour.
Et donc ce sera la première partie de cette émission. Romain Pietrolongo de la King Mushroom Family est avec nous dans le studio. Bonjour à toi Romain.
Salut.
Et tu es avec nous pour parler d'un événement qui arrive bientôt, enfin plutôt le rattrapage d'un événement qui a eu lieu.
Exactement.
Parce que ça a eu un fort succès, donc vous renouvelez cette expérience pour découvrir des champignons de Corrèze. Ce sera le 3 juin prochain et nous y reviendrons. Je suis mon invité, toujours en première partie d'émission. À 13h30, vous entendrez le journal régional proposé par Le Graal. Enfin, après trois éditions consacrées à des événements internationaux, deux coupes du monde et un championnat du monde de descente en 2022, la Vézère accueillera les 26, 27, 28 et 29 mai prochains une concentration de canoë-kayak en Haute-Vézère consacrée aux pratiques de loisirs. Léo Lemaire, directeur adjoint de la station Sport Nature Vézère Monédière, est au micro de Bram FM pour vous en dire plus. C'est la deuxième partie de cette émission. Et la 7e édition du Tap Dance Festival du 26 au 29 mai à Limoges, c'est le sujet de la chronique en Limousin et vous l'entendrez à 13h50. Enfin, à 13h55, Isabelle vous donnera la météo de demain, c'est promis. Vous êtes ici sur Bram FM jusqu'à 14h et nous sommes en direct. Et donc c'est une interview, plutôt c'est une chronique très spéciale, unique, que tu nous proposes aujourd'hui, Audrey, sur les ondes de Bram FM. Une chronique toute particulière, mais qui a vraiment sa place et je te remercie pour ce travail que tu as fourni. On t'écoute.
Alors aujourd'hui, comme tu viens de dire, c'est une chronique particulière, parce que je ne vais pas être la seule à parler. Et oui, il faut bien changer de temps en temps. Mais avant, je souhaiterais remercier Barbara Mété-Chastanier du Théâtre de l'Empreinte d'avoir accepté l'idée et de m'avoir transmis la bande-son. Car il y a quelque temps, le 27 mars dernier, j'ai eu la chance d'assister à la 5e tribune à l'Empreinte de Tulle. Une conférence avec Gilles Clément, dont le thème était « Faire jardin et coopérer avec la nature » à l'École du Mouvement. Petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas Gilles Clément, c'est un concepteur, mais pas que, qui se définit comme jardinier et qui travaille depuis plusieurs décennies à penser autrement les relations, une collaboration avec les vivants. Et j'avais envie de vous la faire partager. Alors pas en totalité bien sûr, mais des passages qui montrent bien l'importance de changer les pratiques et surtout le regard. Et pour débuter, voici le passage. Il s'agit de la fin de la leçon d'inaugurale de Gilles Clément en 2011 au Collège de France, lue par Barbara Mété-Chastanier.
Le mythe aborigène australien s'accorde à une histoire humaine où le nomadisme transformait le territoire en pourvoyeur du bien commun. Un jardin sans jardinier. Tout le contraire de ce que nous venons de dire. Cette heure passée en leçon pourrait se doubler d'une contre-leçon, où le jardin et le paysage tels que nos civilisations les ont imaginés et développés seraient mis en péril par une haute vision du génie naturel. Un autre monde, en effet. Il se pourrait que cela nous aide à inventer un modèle nouveau, adapté à la finitude de l'espace, à la fragilité de la vie sur cette planète. Pour cela, nous aurions besoin d'un peu de temps. Non ce temps de l'urgence et de la compétition, mais celui de la création permanente de territoires de subversion, tout entier contenu dans l'art. Alors j'invite les oisifs, les prétendus inutiles, les lents, les accidentés de la vitesse à venir construire le projet de demain. Nous avons besoin de leur résistance à l'immédiate réponse, de leur capacité à s'étonner, à prendre le temps et à le laisser suivre son cours. Ensemble, nous pourrons nous attarder à la simplicité d'une fleur, son éclat dans la lumière, son annonce d'un fruit, une aventure promise, une graine, une invention forcément. Nous pourrons en faire le dessin et peut-être lui donner un paysage. Nous pourrons même lui donner un nom. Alors, elle existera.
Comme vous le voyez, la lecture donne le ton et montre l'importance de changer de vision.
Pour moi, pour faire quelque chose qui me paraît être important, c'est modifier, changer. Et la première des choses à laquelle je me suis attaché, c'était comment je fais pour ne pas tuer.
Et oui, les mots sont dits, ne pas tuer. Ne pas tuer le vivant qui nous entoure, respecter l'environnement, l'écosystème dont nous faisons partie, apprendre à désapprendre. Ce que l'on nous a enseigné et ce que certains enseignent toujours, malheureusement.
Et donc, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai fait aussi pendant quelques années, jusqu'à ce que je me rende compte qu'on pouvait se tuer avec. Ça m'est arrivé d'avoir un petit accident, quand même, deux jours de coma après un puceron, enfin, traitement de puceron, etc. Je ne parle pas de la taupe et taupicine. Je ne sais pas si vous avez dû connaître ça, parce que c'était une époque où on avait encore autorisé ce poison qui est du cyanure. Et puis finalement, j'ai cherché le côté, la possibilité d'un dialogue avec tout ce qu'on nous déclarait comme étant ennemi, plantes, animaux, micro-organismes, enfin bon, ça c'est plus difficile parce qu'on ne les voit pas, mais bon. Et j'ai trouvé beaucoup de portes d'entrée, beaucoup de possibilités, justement. Et ça a donné lieu à un mode de gestion qui n'a rien à voir avec celui que j'avais appris, qui a fini par la façon dont on s'y prend, à porter le nom de jardin en mouvement.
Et cet extrait résume parfaitement qu'il est possible de changer de vision, de pratique, sur ce qui nous entoure, l'environnement, le paysage. Il suffit juste de voir les choses autrement.
Parce que dans le même temps, il y a une prise de conscience de tous les jeunes aujourd'hui, mais une prise de conscience à laquelle je ne m'attendais pas du tout, là non plus, parce que moi j'ai toujours donné des cours, fait des conférences avec des étudiants, fait des ateliers, enfin. Et il y avait eu pendant assez longtemps, jusque vers 2010 à mon avis, un abandon de la réflexion d'ordre politique, même si ce n'est pas le mot qui est peut-être le meilleur, mais qui va avec ça, et tout à coup ça a repris. Mais là, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus puissant. Et je m'adresse à eux maintenant, aux jeunes, en les appelant les oursons métis. Vous voyez la réflexion, le rapport peut-être avec ce que décrit Baptiste Morisot dans un de ses ouvrages, j'oublie toujours le titre, mais enfin bon, où il est, c'est un suiveur, il est aussi à la fois un philosophe et un biologiste, enfin bon. Et il utilise ce terme à propos des ours bruns, et blancs, si, des grizzlies et des polaires, voilà, et qui traumatisés, hein, eux, ils sont traumatisés, parce qu'il y en a qui descendent, d'autres qui montent, c'est le réchauffement climatique, c'est un changement brutal, et ils se rencontrent. On pensait, alors ils sont issus de la même souche depuis des milliers d'années, d'accord, mais ils sont aussi séparés depuis des milliers d'années. Et normalement, ils devraient, par isolement géographique, avoir subi une spéciation, c'est-à-dire être devenus différents au point de ne pas pouvoir se reproduire. Et ce n'est pas le cas. Ils se reproduisent et ils font des bébés dans le contexte qui est celui-là, voilà, que n'ont pas connu leurs parents quand ils étaient jeunes, bon. Et ils se retrouvent avec un comportement qui n'a pas le même que celui des parents, qui, eux, ne savent plus comment s'y prendre. Ce sont eux qui apprennent à leurs parents comment faire pour vivre.
Et cet exemple montre à quel point les changements sont là. Et ça, c'est la force des disperseurs. Il existe d'autres façons de voir, d'autres façons de vivre. Il suffit juste de regarder et d'écouter. Et pour preuve, si l'on écoute son environnement, si l'on s'écoute, on sait exactement ce qui est bon pour nous. Et un prêtre balinais lui disait très justement...
Mais il me dit, il faut savoir une chose, une seule. Il faut que l'autre soit heureux.
Une philosophie de vie qui est une véritable façon de vivre. C'est une manière de se comporter avec l'autre. Et l'autre peut être n'importe qui. Une plante, un animal, un micro-organisme, etc. C'est un réel changement de paradigme que nous devrions tous faire, ou essayer de faire, pour vivre mieux. Et le jardin est un formidable outil pour ça.
Jardiner, c'est mettre les mains dans la terre, c'est attendre, c'est se trouver dans ce que j'appelle un territoire mental d'espérance.
Et je laisse le mot, ou plutôt la phrase de fin, à Gilles Clément.
Les plantes interprètent. Elles vont changer d'attitude en fonction d'un tout petit changement climatique qu'on n'aura pas observé. Elles ne vont pas se comporter de la même façon, donc on doit les écouter.
Donc j'espère sincèrement vous avoir transmis l'essentiel de cette rencontre, car comme vous l'avez compris, l'objectif est de dire qu'il n'y a pas de petite écologie, que chaque espace compte et que nous sommes tous acteurs de cette protection, pour notre environnement et pour notre santé globale. Il est capital de protéger le vivant et l'existant pour rétablir l'équilibre. Et si vous ne savez pas comment faire, faites-vous aider. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup à toi Audrey d'avoir recueilli les propos de Gilles Clément, qui était donc en conférence au Théâtre de l'Empreinte. Merci de nous avoir proposé cette réécoute, en tout cas, pour celles et ceux qui n'y étaient pas. Et d'avoir, évidemment, nous avoir permis, en tout cas, d'avoir Gilles Clément sur les ondes de Bram FM. C'est un super boulot que tu as fait. Merci infiniment. Merci. On se quitte avec le titre musical de ton choix, Axel Bauer et Zazie, À ma place. On l'écoute.
Serait-elle à ma place, plus forte qu'un homme, au bout de ses impasses où elle m'abandonne, vivre l'enfer, mourir au combat, faut-il pour lui plaire aller jusque-là, se peut-il que j'y parvienne, se peut-il qu'on nous pardonne. Faut-il qu'on nous aime pour ce que nous sommes?
Se met-il à ma place quelquefois quand mes ailes se froissent et mes îles se noient? Je plie sous le poids de cette moitié de femme qu'il veut que je sois. Je veux bien faire la belle, mais pas dormir au bois. Je veux bien être reine, mais pas l'ombre du roi. Faut-il que je cède, faut-il que je saigne pour qu'il m'aime aussi pour ce que je suis? Pourrait-il faire en sorte,
serait-elle pour moi,
d'ouvrir un peu
faut-il que je fasse pour qu'elle me voie vivre l'enfer, mourir au combat? Veux-tu faire de moi ce que je ne suis pas? Je veux bien tenter les pas, te regarder en face, mais le silence est mort et le tien me glace. Mon âme sœur cherche l'erreur, plus mon sang se vide et plus tu as peur. Faut-il que je t'apprenne?
Je ne demande rien.
Les autres oublous, je traîne.
Où tu vas, d'où tu viens?
Faut-il vraiment que tu saches
tout ce que tu crains?
Le doute au fond de moi. Je n'attends pas de toi que tu sois la même. Je n'attends pas de toi que tu me comprennes, mais seulement que tu m'aimes, seulement que tu m'aimes pour ce que je suis.
Axel Bauer et Zazie avec le titre « À ma place ». Vous êtes ici sur Bram FM et rebonjour Romain Pietrolongo.
Salut, salut.
Et vous êtes le secrétaire, tu es, parce qu'on ne va pas faire son nom si vous voyez alors qu'on se tutoie. Tu es le secrétaire général de l'association King Mushroom Family Corrèze. Tu es avec nous aujourd'hui pour parler de votre prochain événement qui aura lieu le 3 juin prochain à la découverte des champignons de Corrèze. Rattrapage. Alors juste avant qu'on aborde cet événement, je voudrais te faire réagir sur ce qu'on vient d'entendre au sujet de Gilles Clément, parce qu'il y a une conversation très intéressante entre Audrey et toi hors antenne. Moi, je voudrais aussi que tu nous dises si tu vois, toi, effectivement, ces réseaux de mycélium qui sont... quelle réaction tu as par rapport à ce qu'on a entendu de Gilles Clément ?
Quand il y a de la souffrance chez la plante, il y a de la souffrance chez les champignons. Hein. C'est le truc de la symbiose, en fait. Hein. Donc, plus les plantes souffrent, plus les champignons souffrent, et d'un autre côté, plus les champignons souffrent et plus les plantes souffrent, en fait. En fait, on pense pas au sol. Quand on voit une forêt, quand on voit des plantes, on voit que la surface. Mais sous la terre, il se passe quelque chose de très, très fort et très intéressant qu'on commence à découvrir avec les années. C'est que c'est un réseau comme un réseau Internet. C'est très, très intense. Les champignons et les arbres communiquent entre eux, se parlent, se disent les choses. Et vraiment, si on fait du mal en haut ou qu'on fait du mal en dessous, tout le monde en subit les conséquences. Donc oui, ils ont totalement raison. La façon dont on a d'exploiter nos terres, il faut qu'elles changent. Il y a un grand scientifique qui s'appelle Marc-André Sellos qui travaille dans l'agroalimentaire et lui, il pousse les gens à travailler avec les mycéliums pour faire de l'agriculture. C'est énorme les travaux qu'il a fait. Il faudrait vraiment que les gens puissent accéder un peu plus. Il y a des vidéos sur YouTube de ses conférences et il explique les champignons et les plantes ne peuvent pas vivre séparément. Donc si on veut jardiner, il faut des champignons et il faut respecter ces plantes.
Oui, parce qu'il fait beaucoup de conférences, parce qu'il est responsable du Muséum d'Histoire Naturelle.
Exactement, voilà.
Merci déjà pour cette réaction. À la découverte des champignons de Corrèze, le 3 juin prochain, c'est une rencontre que vous proposez, une balade. Alors comment elle va se dérouler cette rencontre ?
Alors donc du coup tout le monde se donne rendez-vous à Cédiard, donc sur le parking.
Passe au château de Cédiard.
Voilà, c'est du côté de Clargoux, c'est un endroit assez sympa. Donc on se donne rendez-vous et puis j'emmène le groupe découvrir les différents biotopes. Parce qu'à Cédiard, on a la chance d'avoir au moins 4 différents biotopes. Et ça me permet de leur montrer à peu près tous les endroits où tel champignon va pousser. Là, comme ça concerne surtout les champignons de printemps, on va surtout voir la girole. Donc la girole pruineuse, qui est très peu connue comme variété. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de la confondre avec le pied de mouton parce qu'elle a une petite ressemblance vu qu'elle est très claire. Donc on l'appelle Cantharellus palens.
Et comment on fait la différence entre le pied de mouton et la...
Alors le pied de mouton, lui, son hyménium, il sera constitué de picots. Alors que l'hyménium de la girole, c'est des plis. Voilà, c'est là ça, où c'est voilà,
ce qui se passe en dessous
c'est
le
exactement
chapeau.
Voilà ce qui se passe sous le chapeau. Donc du coup, c'est il y a beaucoup de gens qui font la confusion et qui disent ah non, c'est pas des girolles, c'est pas la saison. Si au printemps, il y a bien des girolles qui sortent, des fois même en très grande quantité suivant les apports de pluie hein. Donc là moi j'en ai déjà trouvé 2 kg, donc elles ont commencé à sortir. Après on a les cèpes d'été, donc Boletus aestivalis, donc le cèpe qui est le moins apprécié en Corrèze parce qu'il a une tendance à être véreux étant donné qu'il sort juste après les pluies de printemps. Faut savoir que quand le sol est bien mouillé, les mouches vont pondre dans la litière et c'est là où on va avoir des champignons un peu plus véreux que d'habitude. Donc c'est un peu à cause de ça que le cèpe d'été est délaissé, mais c'est un très bon cèpe, il faut absolument pas le rejeter et faut apprendre à vivre avec les autres animaux hein. Les cèpes véreux on en perd un peu, mais on peut le manger quand même. Après on a aussi l'hygrophore de Mars, donc c'est Hygrophorus marzuolus. C'est un nom un peu à la one again, mais c'est un champignon qui est très peu connu en Corrèze et qui est super bon à manger. Et après, on a le tricolome de la Saint-Georges, qui est aussi appelé le mousseron de la Saint-Georges. Lui, c'est un champignon qu'on a eu la chance de trouver à notre dernière sortie, justement, le 6 mai. Et en fait, c'était hallucinant parce qu'on est descendu juste du parking et on a trouvé une plaque de ce champignon alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc pour la première sortie, c'était chouette parce qu'on pouvait montrer un des champignons comestibles que personne ne ramasse en Corrèze. Donc voilà.
La période de stress hydrique que l'on traverse actuellement, alors là, ça peut faire bizarre aux auditeurs et aux auditrices d'entendre stress hydrique alors qu'on vient de prendre vraiment des trompes d'eau sur la tête, mais on est quand même dans une période de stress hydrique sur tout le territoire, l'ensemble du territoire français. Il y a des zones qui sont plus ou moins impactées. Est-ce que vous ressentez un impact sur le biotope corrézien?
Alors bien sûr, ça fait 4 ans que je suis en Corrèze, moi. Je viens du Var et nous, on a l'habitude des sécheresses. Donc, je suis en train de me rendre compte que le climat monte. C'est-à-dire que ce que je voyais dans le Var il y a quelques années est en train de commencer à arriver en Corrèze. Donc, forcément, il y a des espèces qui sont amenées à disparaître, des espèces qui ont besoin de beaucoup d'humidité, comme la girolle, par exemple. Dans le Var, on en a beaucoup moins que ici. Les cèpes aussi, mais... C'est très difficile à Corrèze. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de nappes phréatiques en Corrèze. Donc l'eau circule très vite, elle reste en surface. Les gens qui sont doués vont chercher surtout les champignons dans les zones humides. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les tourbières, au bord des lacs, au bord des rivières. C'est à ces endroits-là que vous allez trouver le plus de champignons. Mais en effet, on peut constater qu'il y a des arbres qui sont morts, le sol est quand même assez sec. Dès qu'il y a un coup de vent, avant, on n'avait pas de vent. À force de faire des coupes rases, on laisse les couloirs de vent entrer en Corrèze. Et le vent, ça assèche les sols. Bon. Pas en totalité, mais au moins à la surface. Et le mycélium de surface, lui, il a quand même besoin d'un taux d'humidité assez important pour que les champignons puissent... les sporophores puissent sortir. Voilà. Donc oui, on ressent un problème d'eau. Il manque de l'eau. Normalement, on aurait dû avoir de l'eau tout l'hiver. On n'a quasiment rien eu. Et là, ce qui est tombé, c'est sympa. Mais on va dire fin mars, début avril, on a eu un peu de pluie. Cette pluie-là, elle a été absorbée directement par les arbres. C'est les premiers à boire. Donc la mousse et les plantes du sol de la forêt n'ont quasiment rien eu. Là, avec ce qu'on a eu hier et ce qui est à venir dans les prochains jours, ça devrait un petit peu rattraper le coup et on pourrait avoir une belle saison de girolles. Mais rien n'est gagné parce qu'il peut faire chaud et sec très, très vite ici. Donc voilà, c'est à voir.
En tout cas, moi personnellement, je me réjouis d'entendre cette histoire de belle saison de girolles. Enfin, en tout cas, plutôt mes papilles gustatives se réjouissent. Donc on l'a dit, cette rencontre, c'est le 3 juin prochain au château de Sédières. C'est participation libre, les places sont tout de même limitées, donc il y a réservation obligatoire. On redonnera à la fin de l'interview toutes les informations concernant la King Mushroom Family et comment vous joindre. Quels sont les autres événements et quelle est l'actualité un petit peu pour l'association en ce moment?
Alors là, actuellement, comme on va arriver dans la période d'été, qu'on ne peut pas prévoir la météo à l'avance, je fais encore une sortie fin juin, où là, ça sera une sortie exceptionnelle, je le dis bien exceptionnelle, cueillette de girolles. Parce que je veux qu'on fasse au moins une sortie où on ramasse des champignons et où tout le monde pourra partir avec une petite portion, en espérant qu'on soit tombé sur un spot où il y en ait un, c'est pas assuré. Mais en tout cas, ce sera la seule et unique sortie où on cueillera des champignons comestibles. Après, il faudra patienter jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, on l'espère, si tout va bien, on essaiera de faire un événement. Alors, il y aura une petite conférence avec des intervenants, un petit concert avec un musicien que je n'opérerai pas pour l'instant parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse venir. Mais s'il vient, je pense que tout le monde sera agréablement surpris. Il y aura quelques artisans et bien sûr, omelette aux champignons, dégustation tout autour du champignon, quoi. Et après, deux fois par mois, donc octobre, novembre et jusqu'à décembre, On fera des sorties, donc mycologiques, avec apprentissage des confusions, voilà, enfin tout le pataquès qu'on doit apprendre en fait pour être autonome quand on va aux champignons et surtout ne pas s'intoxiquer, puisque c'est quand même le but de l'association.
Et en plus des questions d'intoxication, est-ce que vous pouvez nous rappeler les bons gestes à avoir en forêt lorsqu'on part en cueillette de champignons ?
Alors là, pour cette saison, je conseillerais déjà les bottes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à la randonnée en chaussures de sécurité. Les bottes, pourquoi ? Premièrement, parce que quand on va aux champignons, on peut tomber sur des zones humides, et les pieds mouillés, c'est pas très agréable quand on marche dans la forêt. Les bottes, ça protège aussi un peu des tiques, des serpents, parce que c'est la saison où les vipères vont commencer à sortir et à prendre le soleil. Ça peut toujours arriver de se faire piquer. Hein. Et quand vous êtes en forêt perdue à une heure de toute civilisation, se faire piquer par une vipère, c'est pas super top, quoi. Voilà. Après, bien sûr, vérifier que son téléphone est bien chargé. Partir dans les bois avec un bon sens de l'orientation. Si on ne sait pas où on va, on se fait guider. Ou alors, on ne va jamais très loin de la voiture. Il est très facile de se perdre dans les bois... en Corrèze, même moi qui m'y connais bien, ça m'est arrivé. Hein, donc, voilà.
Alors, on m'a donné une astuce récemment. Si quelqu'un se perd en forêt et qu'on n'a pas de réseau, il faut enregistrer sur son répondeur l'endroit où on est. Et comme ça, quand les gens essayent de nous joindre, ils tombent sur notre messagerie, ils ont a priori une position.
C'est une très bonne astuce. Après, il y a une application aussi qui fait GPS, mais on n'a pas besoin d'Internet. Apparemment, ça note l'endroit où vous avez mis la voiture.
Il faut avoir l'application.
Voilà, après, il faut avoir l'application. Mais c'est vrai que l'astuce que vous nous donnez, là, elle est pas mal du tout. Mais il faut y penser. Il y a plein de gens.
Il faut y penser.
Voilà. Quand ils partent aux champignons, ils n'ont que les champignons en tête. Hein.
Normal. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant l'association, l'actualité, vous contacter évidemment et réserver surtout pour la sortie du 3 juin prochain?
Alors pour la réservation déjà de la sortie, donc ça se fait par téléphone. Je poste régulièrement sur un peu tous les groupes de Corrèze, sur Facebook bien sûr, les affiches de l'événement avec mon numéro de téléphone et les infos dont les gens ont besoin pour la réservation. Et après, comme d'habitude, c'est notre groupe King Mushroom Family Corrèze sur Facebook qui est pour l'instant l'accès le plus simple aux informations. On a un site en construction, faut être un peu patient, hein, on vient de commencer. Notre site internet sera un peu plus complet. Voilà.
Moi, je remettrai évidemment tous les liens vers vos pages Facebook et compagnie sur le podcast de l'émission qui sera disponible à 14h30. Merci infiniment, Romain, d'avoir été au micro de Bram FM. Je rappelle donc que votre sortie le 3 juin prochain à la découverte des champignons de Corrèze, ce sera au château de Sédière. C'est sur réservation. Merci infiniment.
Pas de quoi.
Et on se quitte en musique juste avant le journal régional avec Anne Sylvestre, Les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, bien sûr, sur Bram FM. Dans quelques instants, nous poursuivons notre émission et nous irons direction Trégnac pour un événement qui se déroule de vendredi à lundi. La station Sport Nature, Vézère Monédière et bien d'autres organisent la grande messe du canoë-kayak. Je ne vous en dis pas plus, Léo Lemaire sera au micro de Bram FM dans quelques instants. Il est 13h31 et c'est l'heure du journal régional proposé par le Graal.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Les orages et surtout les fortes pluies sont à l'origine de perturbations de la circulation en Corrèze. Par exemple, hier en début d'après-midi, la route départementale 1089 a été coupée à Tulle. L'eau accumulée a provoqué un éboulement au niveau du magasin Lidl dans la zone du Mulaté. Par ailleurs, un fort épisode de grêle a touché la 89 au niveau de Saint-Partout-Lortigier, provoquant des ralentissements. Et sur la 20, plusieurs ralentissements également, notamment à hauteur de Vigeois où un poids lourd avait heurté la glissière de sécurité. Mobilisation devant la permanence de Jean-Pierre Cubertafon hier après-midi. Plusieurs syndicats appelés à venir faire pression sur le député MoDem de la Dordogne afin qu'il vote l'abrogation du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Un vote devrait avoir lieu à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain devant le local du parlementaire. À la Noaille, des jeux étaient organisés comme un molki, la quille avant 64 ans par exemple. Autres actions contre la réforme des retraites. Ce soir, un apéro revendiqué est organisé par l'intersyndicale devant la préfecture de Guéret. En Creuse, la journée nationale d'action du mardi 6 juin se matérialisera par un rassemblement à 10h à la gare routière de Guéret. Ils n'arrivent pas à écouler leur production. Des nuciculteurs corréziens et périgourdins ont participé à une opération de vente directe sur le parvis de la gare Saint-Lazare à Paris hier. Une nouvelle opération des producteurs de noix pour implorer la population à manger des noix françaises. Producteurs qui cumulent des stocks liés à une surproduction de l'an dernier et une vive concurrence étrangère, principalement du continent américain. Vendu 50 centimes le kilo, ce prix était en moyenne de 2,50 euros l'an dernier. La filière limousine et périgourdine s'estime en grand danger. Hier, à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, Limoges Métropole signait son premier contrat territorial milieux aquatiques. Il s'agit d'actions en faveur des cours d'eau et des zones humides. Charline Do.
Ce lundi 22 mai, Limoges Métropole signait son premier contrat territorial dédié aux milieux aquatiques.
L'actualité, malheureusement, avec le réchauffement climatique, nous montre qu'on a une ressource qui n'est pas inépuisable.
Émilie Rabeteau, vice-présidente de Limoges Métropole, en charge du développement durable.
D'autres territoires en font les frais. Avant d'en arriver là, il faut se préparer et être innovant, pilote dans les actions.
La métropole, la région et le département se réunissent autour de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour préserver cette ressource en danger.
Il y a des travaux d'investissement, de la renaturation. Il y a aussi tout un volet éducatif. L'idée, c'est effectivement de faire, dans notre projet de territoire, un territoire en transition hydrique.
Un investissement de près de 4,5 millions d'euros pour la métropole. Parmi les objectifs du contrat Vienne métropolitaine, il y aura aussi le contrôle de la pollution des eaux.
Il y a un axe qui va être d'analyser les micropolluants présents et pouvoir effectivement les tracer et enclencher derrière des actions préventives en termes de suivi de qualitatif de la ressource en eau.
L'après-midi s'est poursuivi avec la signature de deux autres contrats territoriaux portés par le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne. Une triple bonne nouvelle pour les milieux aquatiques aux Viennois en cette journée mondiale de la biodiversité. Charline Do, KO1 FM pour le Graal.
Merci Charline. Ces deux contrats sont respectivement nommés la Vienne médiane et ses affluents et bassin de la Briance. Tous deux sont valables jusqu'en 2025. Sans grande surprise, après deux saisons à Beaublanc, le coach du Limoges CSP Massimo Cancellieri cède sa place. Ilias Kanzouri sera le nouveau coach des basketteurs limougeaux. Le club a officialisé hier l'arrivée du Grec de 49 ans qui fut dernièrement le coach de l'AEK Athènes. Et puis le championnat d'Europe de la Coupe Mulet sera de nouveau organisé en Creuse cette année. Ce sera au Moulin du Pio sur la commune de Chénier comme en 2021. Les organisateurs recherchent des bénévoles pour participer à cette édition qui se veut plus ambitieuse qu'en 2021. Il faut dire que les contraintes sanitaires ne sont plus les mêmes. Rendez-vous les 9 et 10 septembre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Vous êtes ici sur Bram FM, oui, au 98.3 et ou via notre site internet bramfm.com. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions en podcast. Nous sommes ici dans le studio jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, vous entendrez la chronique en Limousin. Mais elle m'a rejoint dans le studio, elle nous a rejoint dans le studio pour son titre du jour. Bonjour Isabelle.
Bonjour Eve, bonjour le monde. Dans l'histoire de la musique, il y a des compositions qui deviennent instantanément des classiques, capturant l'essence d'une époque et résistant à l'épreuve du temps. Play That Funky Music de Wild Cherry est l'une de ces chansons emblématiques qui a marqué l'ère du funk et a continué à enchanter les amateurs de groove depuis sa sortie en 1976. Wild Cherry était un groupe de funk américain formé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et mené par le chanteur et guitariste Rob Parisi. Je ferai pas de mauvais jeu de mots. Je vous vois venir toutes les deux.
Par ici, Rob.
Par ici, la bonne soupe. Et là, j'arrêterai là parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, etc. Ça peut aller très loin, ces histoires. Je vois des histoires sordides dans le fond de vos yeux. Laissez-moi continuer cette chronique. Avant de connaître le succès de Play That Funky Music, Wild Cherry avait du mal à percer avec l'industrie musicale et écumer les clubs avant que tout ne bascule, figurez-vous. Alors que Wild Cherry jouait dans un club, un homme s'est approché du groupe et leur a dit « Eh les gars, vous jouez vraiment bien pour des musiciens blancs. Jouez-nous donc un morceau de funky !» Mais il a dit avec un autre ton, hein, quand même. Tu vois,
hey, truc... guys.
Hey guys. Hey guys. Un peu plus naturel, tu vois, que moi. Alors cette remarque a inspiré Parisi, qui a donc écrit ce titre et qui par la suite a donc largement embrassé le genre funk sans tenir compte des différences raciales, et ça c'est beau. En effet, tout a changé lorsqu'ils ont décidé d'explorer ce nouveau son et de sortir ce morceau qui est la première piste de leur premier album éponyme. Qu'est-ce qu'il y a comme album éponyme, hein? J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas de ma faute.
J'avais une copine qui s'appelait Éponine quand on était au primaire.
Ça fait un peu Victor Hugo. Alors cet album éponyme qui allait devenir leur plus grand succès, Play That Funky Music, et c'est mon titre du jour. We'll be right back.
Play That Funky Music de Wild Cherry, le titre du jour que tu nous proposes, Isabelle. Alors c'est
un peu moins morbide que les trois précédentes.
Oui, parce que des fois j'hésite à annoncer ta chronique comme la rubrique nécro en faisant un peu
Non, j'insiste, ce n'est pas une rubrique nécro, j'essaie de l'éviter à fond, mais bon, en même temps, j'évite pas de rendre hommage à des gens importants qui disparaissent.
C'est super ce que tu fais, Isabelle.
Parce que c'est vrai que ça tombe comme des mouches, là, un petit peu, là, depuis quelques temps, dans le milieu du rock et autour.
Ouais. Bon, voilà. On se retrouve à 13h55 pour la météo.
Ouais, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Bonjour Léo Lemaire, vous êtes directeur adjoint de la station Sport Nature Vézère Monédière. Après 3 éditions consacrées à des événements de canoë-kayak internationaux, 2 Coupes du Monde en 2019 et 2021 et un championnat du monde de descente 2022, Trégnac et la Vézère accueillent les 26, 27, 28 et 29 mai prochains la concentration Haute Vézère consacrée à la pratique loisir. Comment cet événement a-t-il été pensé ?
Cette année, on met en place une concentration loisirs de canoë et kayak sur la Vézère à Trégnac. Alors sur l'organisation, une équipe s'est constituée donc autour du comité départemental de canoë et kayak de la Corrèze pour mettre en place cet événement. C'est une dizaine de bénévoles qui ont travaillé toute l'année pour l'organisation de ce rassemblement qui est à la fois festif et sportif avec un programme intense et complet sur l'ensemble du week-end.
La programmation de ce long week-end est très très riche et nous allons la parcourir ensemble. Tout d'abord, vendredi, votre événement débute avec le Challenge Entreprise qui propose à des responsables d'entreprise de constituer une équipe avec leurs collaborateurs ou leurs clients et donc de rivaliser avec d'autres PME du Limousin sur le parcours des mondiaux de kayak à Trégnac.
Tout à fait. Le challenge entreprise, il a lieu le vendredi. Donc il est ouvert à toutes les entreprises qui souhaiteraient s'inscrire. Et ça permet voilà, une confrontation sur le parcours mythique de la Vézère en raft pour se mesurer éventuellement à d'autres entreprises. Alors les inscriptions sont toujours ouvertes si des entreprises souhaitent s'inscrire. On a déjà bien sûr des inscriptions. Voilà, c'est un challenge qui a lieu tous les ans et qui vraiment peut mettre en avant la cohésion dans l'entreprise, qui peut permettre aussi de passer un moment agréable et riche d'intensité.
Et la journée du samedi aussi sera riche en intensité. Elle sera marquée par un spectacle de border cross, la Vézé Race. Qu'est-ce que c'est le border cross, Léo Lemaire ?
Concernant le border cross, cette année, on met en place une compétition loisir, donc ouvert à tous à partir de 16 ans. En effet, c'est une discipline voilà, toute récente qui va être pour la première fois mise en place pour les JO à Paris en 2024. Une discipline qui se rapproche du slalom et qui met en avant également la rivière sportive. Donc un départ à 4 personnes dans le centre de Trégnac le samedi de midi à 15h. 4 personnes en même temps qui partent, qui doivent successivement passer des bouées, soit en les passant, soit en les remontant, hein, comme dans la discipline du slalom, et qui s'engagent ensuite sur un esquimotage, donc se retourner dans la rivière et se remettre à l'endroit dans son kayak, pour arriver à la fin avec cette compétition qui permettra d'avoir des récompenses pour les participants et qui mettra en avant cette nouvelle discipline en loisir. Alors, cette discipline, elle se pratiquera, donc comme je l'ai dit, dans le centre de Trégnac, au niveau des quarteries, de midi à 15h le samedi. Il faut savoir qu'il y aura dans un premier temps des passages en bateau simple, c'est-à-dire une personne par bateau, et à la fin de la compétition, une compétition en double, avec des bateaux doubles, et exactement les mêmes contraintes sur le parcours.
Et dimanche 28, le programme sera aussi très compétitif et intense. Ce sont les championnats de France de nage en eau vive et la Coupe de France Espoir du barrage. Donc ça part du barrage et ça va jusqu'à Chingea, c'est ça ?
Donc le grand retour cette année de la nage en eau vive sur le parcours de Trégnac. Ça fait une petite dizaine d'années que la nage en eau vive n'avait plus organisé de compétition sur ce parcours. Face au stress hydrique qu'on connaît tous cette année au point de vue national et même international, On a décidé, en collaboration avec, avec la Fédération française de plongée, hein, qui gère cette activité, de mettre en place conjointement nos disciplines sur le rassemblement. Donc, ben, alors, la compétition aura lieu de 8h à 10h. Donc, la partie pour les adultes, c'est du barrage jusqu'à Changea. Cette partie-là, elle est très intense, elle demande beaucoup d'engagement de la part des compétiteurs. Donc, la nage en eau vive, c'est quoi ? C'est une discipline où des nageurs vont partir dans la rivière à l'aide d'un hydrospeed, hein, donc une structure flottante. Elle va permettre aux compétiteurs de pouvoir se mouvoir dans la rivière jusqu'à l'arrivée. Et l'objectif, bien entendu, sur cette discipline, c'est de le faire en un minimum de temps. Concernant les espoirs, le parcours, il est de Changea jusqu'au pont La Paire, donc sur la dernière partie de la rivière qui nous concerne, donc sur la Vézère. C'est une belle occasion pour les jeunes de pouvoir s'exercer en eau vive dans un parcours avec des passages classe 3 et 4, donc un parcours exigeant.
De l'exigence, mais évidemment, qui dit Trégnac dit culture de la fête et donc des concerts, ainsi que de quoi se restaurer tout au long du week-end. Léo Lemaire.
Tout à fait. Alors, sur le rassemblement à Trégnac, on a décidé aussi de mettre en avant l'aspect festif pour que tout le monde, finalement, puisse profiter du lâcher d'eau dans la ville de Trégnac. Concernant les festivités, ça commencera le vendredi soir au parking des Rivières à Trégnac, où on fera une soirée pour présenter l'équipe de bénévoles, pour pouvoir passer un moment tous ensemble autour d'un peu de musique. Donc si des gens souhaitent venir, ils peuvent ramener un petit truc à grignoter et partager un moment avec nous autour de la buvette et d'un peu de musique. Pour le programme, cette fois plus concert, on commencera donc le samedi dans Trégnac. C'était une volonté de notre part de recentrer aussi cette concentration loisirs sur le centre de la ville. Avenue Léon Vacher, au Café du Commerce. Il y aura la possibilité de se restaurer donc avec la station Sport Nature de Trégnac, le club de kayak de Trégnac qui fera de la restauration sur place, des grillades et des crêpes. Deux concerts auront lieu ce soir-là, mis en place en collaboration avec le Café du Commerce. Pour le dimanche, tout se passera au niveau du pré-départ, donc le parking des Rivières. Ce soir-là, à partir de 17h, on aura un marché de producteurs qui aura lieu sur le site. Et ensuite, une soirée festive avec de la restauration possible sur place et également les remises de la tombola qui auront lieu tout le week-end donc deux concerts, un DJ qui finira la soirée pour qu'on puisse tous ensemble partager un bon moment de convivialité.
Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant cette concentration Haute Vézère?
Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant ce week-end sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Concentration Haute Vézère de Trégnac. Vous pouvez également retrouver ces informations sur le site du comité départemental de canoë kayak de la Corrèze. Vous pouvez taper CDCK19 sur Internet pour retrouver l'ensemble de ces informations. Je tiens également à rappeler, si des gens le souhaitent encore, ils peuvent s'inscrire pour le raft. Il reste encore quelques places, donc je vous conseille de le faire au plus vite. Et à remercier également l'ensemble de nos partenaires, donc la commune de Trégnac, la commune de Soudaine-la-Vinadière, la communauté de communes Vézère-Monédière, le conseil départemental également, et l'ensemble des partenaires privés qui nous soutiennent pour cet événement. Et également aussi à remercier l'ensemble des bénévoles qui s'affairent depuis le début de la semaine pour la mise en place de l'événement afin de vous recevoir dans les meilleures conditions possibles.
Et vous aussi, vous vous démenez beaucoup. Merci infiniment Léo Lemaire d'avoir été au micro de Bram FM pour nous parler en détail de cet événement. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la station Sport Nature Vézère Monédière qui propose donc cette concentration Haute-Vézère à partir du 26 mai et qui se poursuit jusqu'à lundi prochain qui est, je le rappelle, lundi de Pentecôte. Ce sera à Trégnac. Merci infiniment. Dans quelques instants, Isabelle nous parlera du temps de demain. Il est 13h53, c'est donc avec 3 minutes de retard que nous écoutons la chronique en Limousin proposée par le Graal.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
7e édition du Tap Dance Festival qui se déroule du 26 au 29 mai à Limoges, un festival international de claquettes. On en parle avec Jackie Callian, directeur du Limoges Step Festival. Bonjour.
Bonjour Lucie.
Depuis 2008, année de la première édition du festival, c'est de promouvoir la convivialité, la découverte, l'accessibilité et de proposer une programmation variée afin de provoquer la curiosité et la rencontre. Comment est-ce qu'on peut renouveler la visibilité des claquettes, Jackie Callian?
Je crois que les claquettes ont réussi tranquillement, sans pour autant se mettre en avant. Alors, il y a eu le film The Artist qui avait amené il y a quelques années, pas forcément un renouveau, mais bon, un effet de mode, ça il faut le dire. Mais je crois que bon en mal an, les claquettes suivent le temps, suivent les modes, parce que beaucoup de gens associent les claquettes au jazz.
Est-ce que tout le monde peut faire des claquettes?
Oui, vous voyez, on peut dire de 7 à 77 ans, enfin, quoique maintenant, d'ailleurs, nos aînés vieillissent de plus en plus tardivement, et tant mieux pour elles et eux. Tout le monde peut faire des claquettes. J'ai un élève, moi, qui a 81 ans, donc vous voyez, tout est possible.
Un festival donc du 26 au 29 mai où on peut y voir des spectacles et aussi donc pratiquer avec des grandes stars. Josette Wigan de Los Angeles, Dorel Surbeck de Paris, Kelly Isaac de Grenade, Yuval Beck de Tel Aviv. Vous aussi, Jackie Callian, vous allez former quelques-uns de vos élèves.
Moi je propose un stage d'initiation qui aura lieu le dimanche, donc à l'espace Kéops. Et les autres professeurs internationaux, parce qu'il faut vous dire que le Limoges Tap Festival est le plus grand festival de France. On reçoit, oui, effectivement, des artistes internationaux. Et là, c'est 5 joyeux drilles et joyeux bambins qui vont effectivement déchirer du dance floor, si je peux me permettre l'expression.
On va revenir justement sur ces stages de danse. Là aussi, tout le monde va pouvoir y accéder. Ça veut dire qu'on peut être débutant en claquette.
Oui, on a quand même une plateforme d'inscription, hein, parce qu'on fait ça avec un très très grand sérieux, parce qu'on a quand même plus de 200 stagiaires venant de toute la France et de l'étranger. Là, cette année, on a des gens d'Espagne, des gens d'Israël, des gens du Luxembourg, des gens de Belgique, des gens d'Italie. Donc, il y a une organisation. Donc, on s'inscrit pas comme ça à l'arrache. On peut continuer à venir, même le jour J, s'inscrire, avec le risque que certains cours sont complets. C'est déjà le cas, d'ailleurs.
Et avec Jackie Callian, prise de step, c'est aussi des claquettes, tout le temps au quotidien. Merci Jackie Callian. Ça veut dire que tout le monde a du rythme?
Oui, je pense. Oui, parce que j'enseigne depuis 27-28 ans. Il y a des gens qui n'osent pas le mettre en avant, qui gardent ça pour eux ou qui ont une certaine tension. Mais je crois qu'on peut effectivement le travailler. On l'a tous, oui, à mon avis, oui. D'ailleurs, il y a un instrument qui nous amène le rythme.
Le cœur.
Voilà, mais Lucie, mais elle sait tout. Mais Lucie, mes pattes. Mes chères auditrices et auditeurs, Lucie, mes pattes. Ce qui n'est pas une contrepétrie, bien évidemment. Hein.
Il y a aussi des spectacles, enfin un spectacle à l'espace du Crousy à Boisseuil, un spectacle de claquettes américaines. Là aussi, vous initiez quelque chose. C'est quoi un spectacle de claquettes américaines?
Alors, il y aura deux parties exactement, puisqu'on met carte blanche aux écoles en première partie, puisque dans les stagiaires, il y a beaucoup de professeurs qui viennent avec leurs élèves. Donc là, on leur donne la possibilité de s'exprimer totalement dans une salle vraiment officielle, parce que je ne sais pas si vous connaissez Lucie Le Crousy, elle est très très bien. Remercier la municipalité de Boisseuil qui est partenaire du festival. Et en deuxième partie, on aura un trio de jazz. Donc pareil, on fait travailler des musiciens de la région, c'est le Benoît Ribière Trio. Benoît, si tu nous écoutes, taille ta barbe, elle devient hétéroclite. Et accompagné par les professeurs qui improvisent. Parce que vous avez deux écoles aussi. Vous avez l'école effectivement chorégraphique, où il y a une musique et on travaille sur des pas qui sont déjà bien posés. Et l'improvisation, c'est totale liberté. Ce qui vient d'ailleurs de l'histoire du tap dance.
Racontez-nous cette histoire du tap dance.
Alors, beaucoup de gens associent les claquettes au côté Broadway, Fred Astaire, Gene Kelly. Bah oui. Que nenni ! Ça vient effectivement, malheureusement, de métissage des Africains esclaves partant aux États-Unis et de la population européenne. pratiquement irlandaise ou française. Et c'est ce métissage qui a amené effectivement les claquettes américaines. Pour ça, quand on dit claquettes américaines, c'est très large, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de styles. Il y a le Broadway style, il y a le rhythm tap, qui est purement, effectivement, dans le sol, et quelque chose de beaucoup plus rythmé, beaucoup plus groove. Donc pour ça, c'est très large.
Ce festival a lieu du 26 au 29 mai, et on peut s'inscrire encore un petit peu sur www.prisedestep.com. Jacques Calian, vous êtes directeur du Tap Dance Festival. Merci beaucoup.
Grand merci, Lucie.
Pour le Graal, Lucie Montibus-O'Sullivan, RCF Limousin.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h, mais pour l'heure, exceptionnellement, aujourd'hui, c'est GPT-4 qui fera la météo pour des raisons économiques. Donc je vais quand même tenter de voir s'il est sensible à mon titre d'introduction météorologique. C'est parti, chat GPT-4.
J'aime le vent.